Bonsoir à toutes et à tous. C'est vendredi, c'est le club des idées du grain. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Emmanuel Macron veut rassembler. Problème, l'ancien ministre de l'économie semble avoir sous-estimé son effet répulsif. À Lyon, où il participe ce week-end au sommet européen des réformistes, plusieurs têtes d'affiche à gauche se sont décommandées. Motif officiel, problème d'agenda. Motif officieux, selon plusieurs journaux, pas question de partager la scène avec un partenaire aussi ambitieux qu'envahissant. Alors ambitieux, Emmanuel Macron l'est assurément, ses soutiens l'assurent, lui le revendique, il est celui qui porte aujourd'hui les valeurs progressistes. Une certaine idée du travail, de l'Europe, de la mondialisation, qu'il oppose autant aux conservateurs qu'au conservatisme dont souffrirait la société française. C'est d'ailleurs à partir de cette rivalité entre progressistes et conservateurs qu'il faudrait lire désormais les clivages politiques, davantage qu'à travers la confrontation droite-gauche. Alors ce redécoupage partisan est-il pertinent ? Ou bien se revendiquer du progressisme n'est-il qu'une coquille vide que chacun peut remplir à sa guise ? Pour qui roulent les progressistes ? C'est la question que nous posons ce soir au Club des idées du grain, un club exclusivement masculin, ce qui donne peut-être déjà une idée de notre appréciation de ce qu'est le progressisme. Trois membres du club donc, Brice Couturier, bonsoir.
Bonsoir.
Journaliste, le tour du monde des idées, c'est tous les jours sur France Culture, 11h50. Sylvain Bourmeau, bonsoir.
Bonsoir.
La suite dans les idées, chaque samedi sur France Culture, Sylvain Bourmeau, professeur associé à l'EHESS. Et puis un nouveau membre de notre club, François-Xavier Bellamy, bonsoir.
Bonsoir.
Nouveau membre, mais pas inconnu de nos auditeurs, au grain vous êtes philosophe, professeur en classe préparatoire, maire adjoint sans étiquette de Versailles, délégué entre autres à l'enseignement.
Il y a, pour ce qui est de la France, ce qui se passe dans une maison, la maîtresse de maison, la ménagère, elle veut avoir un aspirateur, elle veut avoir un frigidaire, elle veut avoir une machine à laver, et même, si c'est possible, elle veut qu'on ait une auto. Ça, c'est le mouvement. En même temps, elle ne veut pas que son mari s'en aille bambocher de toutes parts, que les garçons mettent les pieds sur la table et que les filles ne rentrent pas la nuit. Ça, c'est l'ordre. Et la ménagère veut le progrès, mais elle ne veut pas la pagaille. Eh bien, c'est vrai aussi pour la France. Il faut le progrès, il ne faut pas la pagaille.
Bon, vous avez évidemment reconnu le général de Gaulle. François-Xavier Bellamy, est-ce que vous vous reconnaissez dans ce portrait que dressait le général de Gaulle de la ménagère française, c'est-à-dire tiraillé entre d'un côté justement le progrès et de l'autre côté l'ordre? Est-ce que ce serait une idée de ce que peut représenter aujourd'hui le progressisme par rapport à une volonté peut-être de conservatisme et, de, voilà, de, et d'ordre, comme le disait le général de Gaulle?
Je suis pas sûr pour au moins deux raisons. La première, c'est que le schéma était déjà quelque peu caricatural et je pense que le général de Gaulle en avait conscience. Il y a dans cette description quelque chose qui prête à sourire parce que l'antagonisme entre l'ordre et le progrès y est matérialisé d'une façon assez simpliste. Et de fait, si nos débats politiques ressemblaient à cet antagonisme, les choses seraient sans doute plus faciles. Le général de Gaulle n'aurait pas d'ailleurs aujourd'hui la même expression parce que le progrès se présente à nous sous des traits qui lui étaient totalement inconnus. On voit bien que le progrès scientifique, le progrès technologique, que l'évolution de nos sociétés nous a fait donner une idée du progrès ou une définition au mot de progrès qui ne ressemble en rien à ce que le général de Gaulle pouvait avoir en tête quand il parlait pour la ménagère de s'acheter une auto ou un frigidaire. Et puis, la deuxième chose, c'est que je crois que le véritable antagonisme du progrès n'est pas nécessairement l'ordre. En ce sens que, au nom du progrès, on peut parfois faire régner un ordre et un ordre extrêmement contraignant. À l'inverse, l'idéal du conservatisme ou l'idée selon laquelle il y aurait des choses dans la société que nous connaissons qui méritent d'être conservées, d'être partagées, d'être transmises, ne s'opère pas seulement au profit de l'idée de sécurité ou d'ordre, mais peut-être parce que c'est dans la transmission de ce qui nous précède qu'une vitalité, une créativité et au fond qu'une véritable nouveauté sont possibles.
Sylvain Bourmeau, le conservatisme davantage que l'ordre pour tenter de définir ce qu'est le progrès et le progressisme?
Il faut faire attention parce que c'est des mots dont on hérite, qui ont une histoire et une histoire d'opposition. Ça marche par couple et parfois ces couples nous donnent l'impression de pouvoir être des outils et ils deviennent peu à peu inopérants. Le discours du général de Gaulle qu'on a entendu, et qui pouvait être pris à l'époque comme un discours équilibré, renvoyant d'un côté de l'ordre et de l'autre le progrès, en fait, était évidemment un discours extraordinairement conservateur. Il suffit de voir sa conception de la division du travail sexué ou genré dans la famille pour le comprendre. Il a pris un sacré coup de vieux, ce discours, évidemment, entendu aujourd'hui. Ce mot d'ordre, tel que l'emploie le général de Gaulle à l'époque, à mon sens, renvoie à l'opposition qui a structuré une bonne partie de la politique française au XIXe siècle entre l'ordre et le mouvement, le parti de l'ordre et le parti du mouvement. C'est-à-dire que c'est pas tout à fait la même acception que ce qu'on entend aujourd'hui par ordre, qui renvoie davantage à l'expression anglo-saxonne law and order, où on est plus du côté des sujets qui ont à voir avec le pouvoir régalien, les questions de l'intérieur, de la police, etc. À l'époque, ordre et mouvement, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté des partis qu'on peut dire progressistes, qui veulent faire évoluer les choses, et en gros des partis, des libéraux ou des républicains contre les monarchistes, d'ailleurs, dans un premier temps, puis ensuite des libéraux contre les conservateurs. Donc cette opposition qui a pu prendre la forme de l'opposition gauche-droite en France, était celle-là. On hérite de ces mots. Ce mot d'ordre, aujourd'hui, on l'emploie beaucoup moins dans ce sens-là. On parle plus non plus de parti du mouvement. Néanmoins, on continue à parler de progressisme, alors même que le couple qui faisait fonctionner ce mot, qui est celui finalement de réforme et de révolution, n'a plus grand sens non plus s'agissant de l'histoire politique. Alors après avoir parlé, peut-être on va rentrer dans ces détails, de ce qui caractérisait la droite comme le parti de l'ordre, il faudrait parler de la gauche, qui aujourd'hui se présente comme révolutionnaire. Enfin, c'est epsilon dans la vie politique française. Donc finalement, l'opposition, on va pas refaire aujourd'hui le débat Kautsky-Berstein, c'est intéressant d'un point de vue historique, mais ça n'a plus aucune espèce de réalité politique. Donc je pense que il faut arriver à se dégager de cette emprise historique qui nous empêche souvent de penser le contemporain du politique.
Alors allez, à vous réussir justement à vous détacher de cette emprise historique, Brice Couturier, pour nous dire peut-être ce qu'est le progressisme selon vous.
Je voudrais juste rétablir quelque chose. Vous disiez que le rassemblement organisé par Gérard Collomb, maire de Lyon, ce week-end à Lyon, donc autour d'Emmanuel Macron, provoquait beaucoup de répulsion. Vous avez utilisé le mot répulsif. Je voudrais vous rappeler, Hervé Gardette, qu'aujourd'hui, le dernier sondage en date, celui de TNS Sofres, place Emmanuel Macron en troisième position au premier tour des présidentielle, derrière le candidat de droite, quel qu'il soit, et derrière Marine Le Pen.
J'utilisais ce terme par rapport aux nombreuses personnalités qui se sont...
Quelqu'un qui provoque beaucoup de répulsion, je trouve que c'est assez étrange. Je rappelle donc qu'entre 15% et 20% des suffrages, il écrase le président sortant François Hollande dans tous les cas, et il écrase également Arnaud Montebourg et Jean-Luc Mélenchon. Donc ça va, la répulsion finalement n'est pas trop véhémente.
J'ai utilisé ce terme, Brice Couturier, mais vous l'avez bien compris puisque vous avez écouté attentivement mon introduction par rapport au nombre personnalités qui se sont décommandées, semble-t-il, puisque c'est en tout cas ce que disent un certain nombre de médias, du fait que c'était donné peut-être justement trop de visibilité à Emmanuel Macron. Bref, refermons peut-être, si vous le voulez bien, cette parenthèse et parlons de ce que représente peut-être pour vous alors finalement le progressisme, puisque c'est là-dessus que vous avez travaillé.
Non, mais enfin, on peut aussi parler de l'actualité politique, voilà.
On va reparler de Macron, puisque c'est un peu celui qui nous a inspiré cette émission.
Sur le progressisme, effectivement, c'est effectivement le mot que Macron, Macron se revendique comme progressiste. Il faut voir que dans l'histoire de ce terme dans les années récentes, progressisme, ça a été un mot utilisé beaucoup en politique pour désigner précisément un refus du clivage droite-gauche. Il y avait un mouvement, vous êtes bien trop jeune, Hervé, pour le connaître, mais qui s'appelait l'Union des jeunes pour le progrès. C'était les jeunes gaullistes plus ou moins de gauche, parce que ça existait dans les années 60 et 70, et je me souviens qu'il y en avait dans mon lycée, des UJP. Donc vous voyez, le mot progressiste, c'est un mot qui est un peu labellisé.
Jobert, non ?
Ouais, je me souviens plus. Oui, Jobert en faisait partie, absolument, vous avez raison. Et Jobert qui a rejoint Mitterrand finalement.
Un mouvement qui existe toujours.
Alors maintenant, c'est sûr qu'il y a, un problème aujourd'hui. Autrefois, au 19e siècle, les choses étaient simples. Le clivage droite-gauche se résumait entre parti du mouvement et parti de la résistance. Le parti du mouvement était progressiste parce qu'il adhérait à un sens de l'histoire dont il croyait avoir la formule magique et qui lui plaisait. Et le parti de la résistance, c'était une droite qui essayait de freiner des quatre fers vers un avenir qui paraissait c'est écrit d'avance. Aujourd'hui, je dirais qu'il y a un problème entre la gauche et le progressisme, et c'est le problème suivant. C'est que vous avez une gauche qui a tourné le dos aux Lumières, en réalité. Elle se veut défensive, on ne lâche rien. Elle se méfie de la laïcité qui serait stigmatisante. Elle brandit à chaque innovation technologique le principe de précaution. Vous voyez les OGM. Elle a sacrifié jusqu'aux femmes, aux homosexuels et aux dissidents de l'islam à son alliance contre nature avec le nouveau théologico-politique, et c'est l'islamo-gauchisme. Et puis dans certains pays, il faut voir quand même ce qui se passe en Grande-Bretagne autour de Corbyn, ça va jusqu'à, avec la haine de l'Occident et l'antisionisme primaire et irrationnel, ça va jusqu'au complotisme et à l'antisémitisme.
Et du coup, après, est-ce que vous diriez qu'on retrouve davantage les idées progressistes aujourd'hui à droite?
On les retrouve chez Macron en tous les cas, ça c'est assez clair. On les retrouve chez Macron parce que lui, il relève le gant d'une gauche qui croit encore que l'innovation est une bonne chose, que les blocages de la société, il faut les faire sauter, que les corporatismes ne sont pas bons pour l'accession, pour la mobilité sociale et ce genre de choses. Donc effectivement, au sein de la gauche, il y a un vrai débat entre une gauche de blocage et une gauche de progrès.
Sylvain Bourmeau.
Bon, Macron, on y reviendra, mais sur la question du progrès et de la gauche, le portrait que vous avez fait de la gauche, reconnaissez-le, Brice, ne concerne qu'une toute petite partie de cette même gauche. La plupart des gens de gauche ne se reconnaissent pas dans ces caractéristiques. Ce qu'il faut, là, peut-être où je peux rejoindre une partie de votre analyse, c'est en mettant les choses en perspective historique. Il est vrai qu'au XIXe siècle, quand le mouvement social apparaît, quand la gauche politique commence d'exister, au fond, elle a un certain nombre de revendications. Ces revendications, à mesure que la gauche, dans des formes successives, va accéder au pouvoir, elles vont devenir des droits politiques, des droits du citoyen et des grandes libertés publiques, puis des droits économiques et sociaux à partir de la Deuxième Guerre mondiale, la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, etc. Et donc, évidemment, ce qui constituait une bonne partie du programme de la gauche est désormais inscrit dans le marbre des droits les plus importants, constitutionnalisés. Donc, on ne peut pas remettre facilement en cause. Donc, évidemment, là où la gauche, autrefois, n'avait qu'à viser la conquête de nouveaux droits, il lui faut désormais, en même temps, protéger ses droits conquis de ceux des réactionnaires au sens propre, c'est-à-dire de ceux qui voudraient faire marche arrière et défaire ces droits, les déconstitutionnaliser en quelque sorte. Donc la gauche a une double tâche qui est nouvelle pour elle. Et évidemment, ça va créer à gauche, du moins c'est comme ça que je le perçois, un problème important, puisque certains vont penser qu'ils peuvent être à gauche en ne faisant plus que ça. En conservant et en devenant des conservateurs des droits autrefois acquis par la gauche. Donc il est né une gauche conservatrice, c'est pas d'hier, ça date déjà depuis un moment, mais cette gauche conservatrice a eu tendance à, je dirais, grossir au fil du temps. Donc que la gauche ait un problème avec la question du progrès, pour cette raison toute simple, qui est qu'elle a gagné un certain nombre de batailles politiques et qu'elle doit maintenir ses conquêtes, c'est une évidence. Et du coup, c'est pour ça que je pense qu'on ne peut plus regarder les choses aussi simplement qu'autrefois. Pour autant, je pense que la gauche n'a pas perdu du tout le monopole de la notion de progrès, mais je dirais son attachement à cette notion qui devrait continuer d'être un aiguillon et l'aiguillon principal de son combat.
François-Xavier Bellamy, sur l'aiguillon que peut constituer justement le progressisme, pour qu'il y ait du progressisme et pour qu'il y ait du contenu derrière le progressisme, il faut qu'il y ait, comme le disait Sylvain Bourmeau, finalement des droits à conquérir.
En fait, la grande difficulté, me semble-t-il, c'est qu'effectivement, on se trouve à un point de bifurcation dans l'histoire de la gauche en particulier, puisque le progressisme suppose, comme vous le disiez tout à l'heure, Brice Couturier, l'idée d'un avenir qui est déjà écrit d'avance, et que cet avenir est déjà écrit d'avance, mais qu'on va le hâter par sa propre action, et que d'un côté, il y a ceux qui sont du côté de l'avenir et qui contribuent à faire advenir les lendemains qui chantent, et de l'autre côté, ceux qui sont du côté du passé et qui se crispent et refusent d'avancer. En fait, avec l'effondrement du mur de Berlin, avec l'explosion de l'Union soviétique, le fait que le monde avait un avenir écrit d'avance semble s'être écroulé d'un coup. Et par conséquent, nous nous trouvons, et c'est peut-être une chance, heureusement d'ailleurs, confrontés à l'évidence de notre propre liberté. Ce qui me paraît le plus problématique dans le progressisme, c'est qu'ils définissent comme, par définition, indiqué d'avance le sens de l'histoire qu'il convient de poursuivre, alors que la vérité est bien plutôt dans le fait que l'histoire est de façon tout à fait fragile et vulnérable dans les mains de ceux qui sont en train d'agir. Donc,
mais est-ce que vous pensez, François-Xavier Bellamy, que ceux qui se revendiquent progressistes aujourd'hui, finalement, ils sont assez nombreux, même si c'est vrai qu'Emmanuel Macron est beaucoup mis en avant par rapport à cela, mais ont cette confiance dans l'avenir, ou bien est-ce qu'ils n'y mettent pas autre chose et peut-être avant tout un rejet de ce qui ne serait pas le progressisme?
Ce qui est très frappant, c'est que le progressisme a changé de couleur. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron est tout à fait convaincu que l'histoire est écrite d'avance. Lui aussi, il a cette conviction, c'est certain. Il pense que l'avenir, c'est la mondialisation, que l'avenir, c'est la suppression des cadres, des rigidités, des points de fixité ou de fixation. Et il décrit ces victoires que la gauche a le sentiment d'avoir acquises, d'où le grand traumatisme, évidemment, que vivent une partie des militants de gauche. Il les décrit justement comme, désormais, l'ennemi à abattre et les murs à écrouler. La vraie question, donc, qui se pose, la question est simple, me semble-t-il, c'est de remplacer l'idée d'une histoire écrite d'avance par une interrogation renouvelée quant à la nature même de ce qu'est un progrès. Qui dit progrès dit un bien. Et de ce point de vue-là, il me semble que nous avons beaucoup à gagner et à regagner dans le débat politique contemporain en apprenant à relativiser de nouveau le concept de progrès. Il n'y a de progrès et que s'il y a un bien, et donc il faut d'abord un critère pour dire qu'une chose est un progrès. Il n'y a de droit que dans la mesure où le contenu même du droit qui est acquis ou qui est distribué constitue le droit d'user de quelque chose de bon. Tout droit qui se constitue est un devoir qui s'impose à l'autre bout de la chaîne. Donc il faut plutôt que de militer de façon mécanique pour un progrès qui serait défini par avance ou pour des droits qui seraient là devant nous et encore à dévoiler, et il faudrait peut-être s'interroger sur le contenu même de ce que nous appelons progrès et de ce que nous appelons droit.
Alors sur la nature du progressisme selon Emmanuel Macron, écoutez ce qu'en dit la philosophe Myriam Revaud-Dallone. Enfin écoutez, c'est moi qui vais le dire à sa place. Elle dit ceci, chez lui, le conservatisme est assimilé à l'archaïsme supposé des acquis sociaux et le progressisme à la flexibilité et la dérégulation économique. Qu'est-ce que vous en pensez, Brice Couturier, vous qui êtes ce soir, semble-t-il, le plus fervent des défenseurs d'Emmanuel Macron?
Moi, je voudrais juste faire remarquer que je suis sensible à l'argument que donnait Bellamy à l'instant. Il est vrai que pendant un temps...
Et à celui de Myriam Revaud-Dallone, oui, sur lequel aussi. Je vous interpelle également. Ne m'oubliez pas, Brice.
On a trop voulu croire au 19e siècle et pendant encore une partie du 20e que l'histoire avait un sens et que nous le connaissions. Par conséquent, effectivement, la gauche, c'était le camp de ceux qui étaient en charge de faire advenir ce progrès et cette étape suivante de l'histoire. Aujourd'hui, la philosophie de l'histoire est en crise et le sens de l'histoire, personne ne le connaît plus. Il n'y a pas de point d'arrivée à partir duquel, comme chez Hegel ou chez Marx, à partir duquel on pourrait fixer des étapes qui nous mèneraient vers cet avenir radieux. Personne n'y croit plus. Mais le problème, c'est qu'une partie de la gauche, encore elle, a remplacé ce progressisme par ce que j'appellerais le bougisme. Vous savez que Ellul disait « Nous allons de plus en plus vite vers nulle part ». Et il y a eu un mouvement comme ça, il y avait eu toute une culture autour du fait qu'il fallait se bouger, qu'il fallait se remuer. On savait pas vers où, mais comme la gauche avait gardé l'idée qu'il fallait toujours aller de l'avant, eh ben on allait de l'avant dans tous les sens. C'était plutôt une explosion de fixe qu'un mouvement progressiste. En ce moment, il me semble qu'il y a, autour de Macron et quelques autres, l'idée à nouveau qu'on ne connaît pas la destination finale. C'est pas la transition du capitalisme vers le socialisme. Personne ne croit plus en cette fable, même chez Mélenchon. Mais par contre, on commence à penser qu'effectivement, un certain nombre de blocages institutionnels, un certain nombre de blocages du monde du travail empêchent la mobilité sociale, empêchent la rénovation de l'économie. Par exemple, une société de statut est un frein à la mobilité. Et ça, ça heurte de plein fouet un certain nombre de ce que j'appelais tout à l'heure la gauche réactionnaire.
Sylvain Bourmont, est-ce qu'on pourrait parler presque d'une forme d'instrumentalisation du progressisme aujourd'hui qui servirait par exemple à dénoncer le poids trop important des corps intermédiaires, les syndicats, les fonctionnaires, l'État, ce genre de choses?
Le progressisme peut n'être à certains moments qu'un masque. Le masque admirablement mis en évidence dans l'adaptation qu'a fait Visconti avec le guépard, de ces gens qui veulent que tout change pour que rien ne change. La formule est célèbre, mais elle est extraordinairement juste, historiquement, sociologiquement. Ça s'est souvent passé comme ça. Néanmoins, je crois que pour penser la question du progrès, on ne peut pas s'arrêter uniquement sur les questions économiques et sociales du travail. Il y a d'autres dimensions du progrès. Il y a ce qui concerne la science, la technologie, on en a parlé, mais il y a aussi ce qui concerne la société. Et autant je souscris à l'idée que il serait complètement idiot d'un point de vue philosophique aujourd'hui de prétendre que l'histoire a un sens et qu'on sait où on va et que tout est écrit En revanche, je pense qu'il est incroyable que les responsables politiques continuent de penser que c'est à eux de définir là où on va. Et je crois que souvent, le progrès emprunte plutôt les chemins de la société et non pas de la politique. Les chemins de la société qui fait avancer concrètement ce progrès, avant même que ce progrès soit inscrit dans les droits. Et de ce point de vue-là, on peut dire que la grande réforme progressiste du quinquennat de François Hollande aura bien évidemment été le mariage pour tous. Il s'agit là d'un progrès social, c'est-à-dire quoi ? La transcription juridique dans le droit positif d'une évolution majeure de la société qui a d'abord, avant d'être décidée par un gouvernement, été décidée par les pratiques individuelles de dizaines de milliers ou de centaines de milliers, voire de millions de personnes dans le pays. C'est exactement pareil quand on a eu une droite progressiste qui, dans les années 60, a autorisé la contraception. Dans les années 70, autorisé l'interruption volontaire de grossesse, même si elle n'était pas encore tout à fait parfaite et que la réforme de Simone Veil, il a fallu la garantir, la solidifier, et ça a été un travail qui continue et que la gauche a parfait par la suite. Mais là, on a eu véritablement un comportement, à mon sens, politique des progressistes, des responsables politiques, qui ont su reconnaître l'avance de la société sur le politique. Et je pense que, moi, c'est la définition que je voudrais défendre du progrès. Je crois que plutôt que le masque, du réformisme comme seul horizon progressiste, je pense que le politique doit avoir l'intelligence de, non pas de savoir où va l'histoire, mais de reconnaître où vont déjà ceux qui peuplent les corps électoraux qui les a fait roi.
France Culture, du grain à moudre.
Hervé Gardette.
Là, c'est moi, Sébastien Nadeau. Je suis prof de gym à Toulouse. Alors d'habitude, je fais faire des tours de stade à mes élèves. Là, c'est Sylvia et Charles avec qui je parle. On n'est pas des professionnels de la politique, mais on parle souvent des moyens d'améliorer la société. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, franchement. Vous faites encore confiance aux politiques pour nous sortir de là ?
Je suis Sébastien Nadeau. Je suis candidat à l'élection présidentielle de 2017. Un de plus, vous me direz. Mais moi, je suis un acteur du quotidien qui veut changer les choses. Je sais de partout des projets fourmis d'intelligence dans notre pays et que notre futur, c'est un monde en commun. Ensemble, agissons pour améliorer notre quotidien.
Sylvain Bourmeau, Brice Couturier, François-Xavier Bellamy, est-ce que vous connaissez Sébastien Nadeau ? Non, manifestement, personne parmi vous ne le connaît. Il a 43 ans, il s'est donc présenté, on l'a entendu, il y a un petit clip. C'est le candidat du mouvement des progressistes. Mouvement des progressistes, présidé par qui ? Par Robert Hue. Il y a donc un mouvement des progressistes en France qui semble vous surprendre, les uns et les autres, François-Xavier Bellamy. Au-delà de la surprise.
Oui, il y a quelque chose de surprenant à apprendre que Robert Hue est désormais président d'un mouvement des progressistes en France.
Je savais qu'il faisait du rock, mais du rock progressif
En tout cas, sur la dualité qui peut y avoir et la diversité qui peut y avoir entre leur progressisme, conservatisme, j'ai vu que vous vouliez réagir, François-Xavier Bellamy.
Oui, je voulais revenir sur ce que disait Sylvain Bourmeau à l'instant, qui me paraît vraiment symptomatique dans la discussion qu'on est en train d'avoir. D'abord, peut-être, je voudrais essayer de contredire, alors là pour le coup aussi radicalement que possible, l'argument qui a été développé selon lequel le progrès consisterait à traduire dans la loi des phénomènes qui se déploient à l'intérieur de la société d'une manière spontanée. Ça me paraît alors là vraiment absolument absurde, dans la mesure où ce qui se développe dans la société n'est pas nécessairement bon. Et je reviens à l'instant sur ce que je disais
tout à l'heure. Pas n'importe quel phénomène.
Alors à partir de quoi est-ce qu'on évalue qu'une pratique, qu'une mutation, qu'une transformation sociale est un progrès ou ne l'est pas ? Et je crois qu'on est contraint de revenir à la discussion que j'évoquais brièvement tout à l'heure, c'est-à-dire à une échelle de valeurs qui touche à ce qui est bon et à ce qui est mauvais. Il y a des choses qui se développent dans la société qui sont mauvaises et que nous avons le droit d'appeler des régressions. Et un politique digne de ce nom n'est pas seulement la chambre d'enregistrement de la mutation d'une pratique sociale. En disant cela, je ne dis pas du tout que le développement des unions homosexuelles soit un mal. Je dis simplement que ça n'est pas parce que ça se développe que c'est forcément un bien. Ça n'est pas parce que ça se fait jour que c'est forcément un progrès.
Et est-ce que vous pourriez prendre justement un exemple à contrario de choses qui se développent ?
Imaginons, alors surtout qu'on ne m'accuse pas de faire d'analogie, c'est pas du tout mon propos de faire une analogie, mais imaginons un responsable politique qui dirait « La société française est clairement de plus en plus raciste et donc il est normal d'accompagner cette évolution de la société, je vous propose donc d'adopter des lois raciales ». On le jugerait non seulement absurde, mais on le jugerait aussi scandaleusement lâche devant
un
mal objectif.
Et les drogues. Ce ne serait jamais présenté par ces acteurs sociaux comme un progrès. Est-ce que vous considérez que
prenons la question
le mariage
de la drogue,
pour tous est un progrès
pas
Est-ce que vous considérez que
la
c'est
drogue,
un progrès
c'est un bon sujet. Moi, je pense que le mariage pour tous n'est pas un progrès. Et je vais l'expliquer par une chose très simple. Je vais l'expliquer par une chose toute simple devant laquelle on se trouve placé aujourd'hui. La question de la GPA, devant laquelle beaucoup de gens de gauche sont très mal à l'aise.
La gestation pour autrui.
Parce que dans le lexique des droits, dans le lexique des lendemains qui chantent, dans le lexique de la technologie est un progrès, la GPA doit forcément être un progrès. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de ceux qui ont milité pour le mariage pour tous, aujourd'hui, se sentent obligés de protéger, de développer, de favoriser, de promouvoir, pourquoi pas la GPA, ou à tout le moins d'entretenir à son sujet un silence complice, sinon coupable. Parce que la GPA, je le crois, est une régression formidable des droits humains.
Mais qu'ils aillent voir le sociologue et le formidable film avec Irène Théry.
Une régression absolue, parce que le jour où on se met à vendre la vie d'un être humain dans ce monde, on peut dire qu'on est revenu à une étape antérieure à la civilisation que nous avons su construire. Donc derrière, je suis parfaitement d'accord avec vous, derrière le masque du progrès, il y a parfois de grandes régressions, et derrière des pratiques qui se développent dans la société, et vous preniez à raison la question de l'usage de la drogue, c'est pas parce que beaucoup de jeunes se mettent à fumer du cannabis que le cannabis est forcément un progrès, et que le politique devrait forcément avoir pour rôle de valider cette évolution.
Non, ce qui pourrait être un progrès, c'est pas le cannabis, c'est la non-pénalisation de sa consommation. Le cannabis progrès, ça ne veut rien dire, ça n'a rigoureusement aucun sens.
Le fait que de plus en plus de jeunes fument du cannabis est une évolution constatée dans la société, en tous les cas que les jeunes continuent à fumer massivement du cannabis, ça ne veut pas dire que ne pas pénaliser sa consommation soit nécessairement un progrès. Je pense d'ailleurs exactement l'inverse.
Mais donc
et je crois que le responsable politique qui veut servir le progrès est celui qui est capable de parler à ses concitoyens un langage de vérité quant à ce qui est bon et à ce qui est mauvais.
Donc je remarque qu'il y a un vrai clivage politique très fort, puisque je vous ai posé la question, est-ce que vous considérez que le mariage pour tous est un progrès? Est-ce que vous considérez que l'IVG est un progrès? Que la contraception est un progrès? Est-ce que vous considérez que l'abolition de la peine de mort est un progrès? Pour moi, ce sont là des progrès fondamentaux réalisés depuis les années 60. Est-ce que vous partagez ce sentiment?
Non, bien sûr que non. Et ce qui est très intéressant, c'est que le clivage existe, évidemment. Évidemment, le clivage existe. La politique n'existe que parce qu'il y a des clivages. Mais ce qui est très intéressant, c'est ce que j'essayais d'évoquer brièvement tout à l'heure, qu'on ne peut pas simplement en rester à l'idée qu'il faudrait opposer d'un côté le progressisme et de l'autre côté une forme de crispation ou de résistance. La vraie question consiste dans la nature même du progrès. Et j'irais jusqu'à dire que je considère que le fait que, par exemple, nous soyons capables d'interdire aujourd'hui en France de façon beaucoup plus explicite et beaucoup plus réelle la GPA serait un véritable progrès.
Dialogue très intéressant, vous êtes d'accord, Brice Couturier, mais qui peut-être finalement démontre que, alors à la fois il y a un caractère, comment dire, non pas aléatoire, mais enfin c'est subjectif dans la notion de progrès, mais que par ailleurs on peut se revendiquer peut-être progressiste sans forcément partager tout à fait la même idée du progrès, et l'idée selon laquelle le clivage progressiste conservatisme l'emporterait aujourd'hui sur le clivage droite-gauche, est-ce que c'est pas une illusion, une erreur, et que ce véritable clivage qui est si fondateur, celui entre la droite et la gauche, reste quand même un clivage extrêmement important aujourd'hui?
Non, moi franchement, je pense que le clivage droite-gauche, il est très dépassé, parce que quand on prend tous les vrais problèmes d'aujourd'hui, la GPA en est un, la légalisation des drogues en est un autre, mais prenez la question européenne, fédéraliste, souverainiste, sur tous les grands sujets réellement, ou la question institutionnelle, faut-il encore un président de la République, ou peut-on passer à une étape un peu ultérieure? Vous voyez que la droite et la gauche sont extrêmement divisées sur chacun d'entre eux. Moi, il me semble en réalité que le vrai clivage aujourd'hui, il sépare moins les progressistes et les conservateurs, comme on le dit peut-être, moi compris, depuis le début de cette émission, que plutôt entre ceux qui réclament davantage de protection et ceux qui réclament davantage de liberté. Ça me semble être le grand clivage en ce moment dans la société française, parce que face à la mondialisation, nous avons des gagnants et nous avons des perdants. Contrairement à Christophe Guillouis, je ne crois pas, moi, que les gagnants, c'est les élites, et les perdants, c'est les périphéries ou c'est le peuple, parce que sinon, le peuple serait peut-être déjà en voie d'être minoritaire, ce qui serait quand même paradoxal. Mais je pense qu'effectivement, le vrai clivage, il passe là. Il y a effectivement beaucoup de la mondialisation crée beaucoup d'opportunités pour les gens qui vivent dans les grandes villes, dans les grandes villes connectées, et elle crée aussi beaucoup de perdants. Ces perdants sont furieux, ils sont en colère et ils réclament davantage de protection. Et je pense que les élections se joueront beaucoup plus que sur le clivage entre progressistes et conservateurs, sur le clivage entre besoin de protection et besoin de liberté supplémentaire.
Il y a un débat important en ce moment, même si la question risque d'être réglée plus rapidement que prévu, qui est autour du libre-échange et notamment du projet de libre-échange entre les États-Unis et l'Europe. Est-ce que vous direz, par exemple, Brice Couturier, pour rester quand même sur cette notion de progressisme, est-ce que militer pour que ce traité TAFTA existe, c'est militer de manière... être dans le camp des progressistes, ou bien le camp des progressistes, il est celui qui s'y oppose parce que les dérives que ça peut engendrer. C'est-à-dire, on a l'impression qu'on peut être progressiste et limiter aussi bien pour que contre.
Je rappellerai à ceux qui manifestent beaucoup contre ce traité que son principal opposant s'appelle Donald Trump, qui lui veut absolument... aux États-Unis, c'est quand même le porte-voix de ceux qui veulent abolir tous les traités de libre-échange des Américains, y compris ceux avec l'Amérique latine et le Mexique, parce qu'ils y voient une menace effectivement pour leurs emplois. Et Donald Trump est le porte-parole précisément de ce que je disais tout à l'heure, ceux pour qui la mondialisation et les échanges, la libéralisation des échanges a représenté un recul de leur pouvoir d'achat, une vague de chômage, etc. Donc je m'amuse beaucoup quand je vois la gauche française manifester du côté de Donald Trump.
Et Sylvain Bourmeau.
Je crois que le mot de progrès peut être très piégeux dans ce cas-là, parce qu'on peut mettre des réalités contradictoires sous ce terme, s'agissant d'une question comme TAFTA. Il peut être progressiste de s'opposer à certaines évolutions qui sont présentées comme fatales, inéluctables de la mondialisation, et il peut être progressiste aussi de souhaiter certaines formes de mondialisation. Je trouve la distinction proposée par Brice Couturier entre liberté et protection intéressante. Elle structure une partie du débat public. Je pense qu'il ne faut pas oublier d'autres éléments, et en particulier qui sont au cœur d'une forme de crise d'identité de la gauche, pour le coup, dont on a commencé à parler tout à l'heure, qui est la manière dont la gauche gère, au fond, la tension qu'il peut y avoir entre le fait de protéger des acquis sociaux, des anciennes conquêtes, des droits, et le fait d'en obtenir ou d'en inscrire des nouvelles dans le droit positif. Je pense qu'aujourd'hui, la gauche a tendance parfois à perdre de vue ces acquis sociaux, puisqu'ils ne sont pas souvent universels dans le pays, ont tendance à créer des inégalités considérable entre les citoyens, des inégalités de protection précisément.
Statut.
Et donc, si on raisonne uniquement en termes de « il faut encore plus protéger », je pense qu'on pose mal le problème. Il faut réfléchir à la question de l'inégalité de la distribution des protections, plus exactement. Et je crois qu'effectivement, les statuts sont l'un des problèmes numéro un. Mais ils sont très très variés. Il ne s'agit pas de dire le service public c'est plus protégé que le privé. C'est pas comme ça que ça marche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, le fait de travailler dans une toute petite entreprise, dans une PME, fait de vous un salarié beaucoup plus fragile, avec beaucoup moins de droits, que le fait de travailler dans une multinationale.
À ce sujet, Sylvain Bourmeau, il y a une idée qui est de plus en plus reprise actuellement dans le débat public, qui est celle d'un revenu universel qui aurait pour avantage justement de limiter, en tout cas de réduire les inégalités par rapport à ces acquis sociaux. Est-ce que ça, c'est une idée que vous qualifieriez de progressiste ?
Oui, c'est une idée progressiste parce qu'elle a une dimension, je dirais, utopique de projection politique. Après, tout dépend, puisqu'elle est portée aussi par certains à droite d'ailleurs, tout dépend...
Christine Boutin, par exemple, défend cette idée d'un revenu universel.
Tout est en fait dans les modalités de mise en œuvre de cette idée qui recouvre des réalités extraordinairement différentes. Donc c'est très difficile de porter un jugement général sur le revenu universel. Il faut savoir ce qu'on entend par là, à quel niveau, à qui on le donne, à quelles conditions, etc. En fait, je pense que c'est un bon exemple du problème du progrès. En fait, je crois que progrès est plutôt un mot qui masque les choses. C'est une espèce de boîte noire, et je pense que c'est en ouvrant cette boîte noire et en regardant dans le détail les mesures que pourraient apparaître de nouveaux clivages et qu'on pourrait définir plus précisément des désaccords autour de ce qui est progressiste et ce qui ne l'est pas.
François-Xavier Bellamy.
Ce qui est certain, c'est que tout est une question d'orientation, de direction. Et encore une fois, il ne peut pas y avoir de débat authentique sur la question du progrès sans avoir déterminé par avance ou sans avoir débattu par avance de la question de cette orientation que la politique doit suivre. Progresser, ça veut dire, au sens originel du terme, tout simplement marcher en avant. Et marcher en avant peut être une très bonne idée, mais ça peut être aussi une très mauvaise idée si vous êtes au bord d'un précipice. De ce point de vue-là, il ne suffit pas effectivement d'avoir le sentiment de... Je rejoins ce que disait Brice Couturier tout à l'heure. Il ne suffit pas seulement de bouger pour que les choses bougent bien, et il ne suffit pas juste d'avancer pour avancer dans le bon sens. Et donc la question qui se pose, c'est la question, encore une fois, du sens de l'action politique. Derrière la question du revenu universel, il y a en fait fait d'un débat qui précède ce problème-là, qui est la question de la place du travail dans la société contemporaine, des mutations des formes du travail, des mutations qui vont être induites aussi évidemment par le numérique et par la transformation de nos modes de production et de production de valeur. La question du revenu universel est une question complexe, mais qui ne peut pas être résolue si nous n'avons pas d'abord envisagé ce qu'était le travail dans la vie des hommes et dans la vie des sociétés.
Brice Couturier.
Oui, le revenu universel, c'est une vieille idée libérale à l'origine. Et beaucoup de sociodémocrates et de socialistes s'en sont méfiés. Parce que, évidemment, l'idée, c'est que ce revenu est universel. C'est-à-dire que tout le monde le touche, les pauvres comme les riches. Et que ça veut dire qu'on supprime les minima sociaux et un certain nombre de prestations sociales qui sont accordées aujourd'hui sur la base des revenus existants.
Mais après, la fiscalité joue son rôle.
Bah oui, mais enfin, l'universel, ça veut dire universel. Donc, c'est effectivement une vieille idée libérale. C'est une idée qui pourrait être mise en œuvre si l'on considère qu'on est dans une période de transition qui va effectivement coûter très très cher en termes d'emploi. Et on peut penser raisonnablement, quand on lit les économistes américains, qu'effectivement nous sommes à la veille d'une grande stagnation, que la productivité stagne dans tout le monde industrialisé, que les revenus du travail ont tendance à baisser, et que surtout 45% des revenus vont être détruits par la révolution numérique et l'automatisation et la robotique qui sont en cours. Donc il y aura une période de transition entre le moment où ces emplois seront détruits, car ils le seront inéluctablement, et le moment où d'autres emplois seront créés, seront induits par cette troisième révolution industrielle qu'on nous promet. Donc peut-être que dans l'entre-deux, le revenu universel serait une bonne chose en effet.
Non, juste un mot pour boucler la boucle, puisque on a commencé avec Emmanuel Macron. Vous demandiez, Hervé Gardette, si c'était un repoussoir, en constatant qu'un certain nombre de gens faisaient défection à ce rendez-vous à Lyon. Je ne sais pas si c'est un repoussoir, mais force est de constater qu'on en a peu parlé ce soir, et donc ce n'est pas une évidence d'en parler, d'associer son nom au progressisme. Moi, je voulais noter une chose, parce qu'elle était très surprenante, c'est que quand Emmanuel Macron s'est dissocié du gouvernement, marquant un pas vers son candidature possible, j'imagine, à l'élection présidentielle, le journal Le Monde a consacré un éditorial non signé, qui engage le journal, donc, qui était extraordinairement critique, beaucoup plus qu'on aurait pu l'imaginer à l'endroit d'Emmanuel Macron, si on le pensait précisément comme incarnant ce progressisme. Parce que le journal Le Monde se pense, comme un journal progressiste. C'était, je pense, une information qui vient justifier votre emploi du mot repoussoir que Brice mettait en question tout à l'heure. Je pense que vous voyez là un indice assez fort.
Pour équilibrer, je vous dirais que dans le Figaro, l'excellent Vincent Trémelet de Villers le compare à Jean-Jacques Charon-Schreiber et l'assassine dans des termes qui sont exactement ceux-ci. Toute la platitude technocratique. Il incarne toute la platitude technocratique. Ça s'adresse à la fois à JJSS et à Macron. Donc vous voyez que finalement, il fait l'unanimité contre JJSS, lui. On était c'est très une bonne chose.
Qui incarnerait justement, alors pour vous, de manière évidente, le progressisme? Sylvain Bourmeau, puis les autres, réfléchissez, je vais vous poser la même question.
En politique aujourd'hui en France,
politique.
Je ne peux pas répondre à une telle question. Je ne vois pas
parce
une personne.
Personne ou parce qu'il y en a trop?
Je ne vois pas une personne qui incarne le progressisme en tant que tel aujourd'hui. J'ai le droit de citer quelqu'un qui vient de mourir il y a quelques mois, Michel Rocard.
Brice Couturier.
Vous me tendez la perche. Michel Rocard.
Et pour vous, François-Xavier Bellamy?
De la même façon, j'aurais du mal à répondre à cette question. Je crois d'ailleurs que le paysage politique français manque aujourd'hui beaucoup d'une vraie lisibilité intellectuelle et qu'on a à peine à repérer des vraies grandes polarités qui se détachent. Si Emmanuel Macron peut rendre à la vie politique française le service de permettre à des camps nouveaux de se détacher à nouveau pour que les choix puissent être faits, il aura déjà fait beaucoup.
Voilà, peut-être que celui qui incarne le progressisme, finalement, j'y reviens, je ne le connais pas du tout, mais c'est Sébastien Nadeau, donc je rappelle, candidat du mouvement des progressistes pour la prochaine présidentielle en 2017. Voilà, on peut aller sur son site, on va le mettre en lien, tiens, sur notre site internet pour voir un petit peu quel est le programme de ce mouvement. Merci beaucoup à tous les trois, François-Xavier Bellamy, Brice Couturier, Sylvain Bourmeau. Peut-être juste un mot de votre invité demain dans la suite, dans les idées.
Le sociologue Fabrice Dume qui viendra parler de son livre qui s'appelle « Communautarisme, une chimère nationaliste française ».
Voilà, c'est demain et c'est à quelle heure sur France Culture?
13h30.
C'est bien, vous avez bien répondu. Merci à toute l'équipe du Grain, Céline Leclerc, Mélanie Chalandon, Mathilde Barbier, Cyril Bayer, Isolde Sicard, émission réalisée par Jean-Christophe Francis avec à la prise de son Clément Daté. Lundi, nous poserons la question suivante à partir de 18h20. Qui a les moyens d'être piéton? Il sera question de piétonisation des villes à Paris, mais pas seulement. Pour l'heure, c'est ping-pong avec Mathilde Serrel et Martin Kenen. Enfin, pour l'heure, c'est dans un instant. Où va la mode? C'est la question qu'il pose ce soir à l'occasion de la semaine de la mode qui démarre la semaine prochaine. Ils sont en compagnie du documentariste Loïc Prigent et d'Alexandre Mathiussi, créateur de la marque AMI.